Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
David Andolfato est archéologue. Il a passé de nombreuses années sur le terrain au Népal. C'est un plaisir que d'échanger avec lui pour mieux comprendre l'histoire de ce petit royaume himalayen. Dans cette deuxième partie de l'émission Regarde ailleurs, David nous parle d'histoire, de spiritualité et d'expérience de vie. Avant de passer au côté religieux, les différents courants religieux qu'on retrouve au Népal, j'aimerais savoir comment se termine cette histoire de royauté. Je crois qu'il y a eu au sein même de la famille royale des histoires pas très belles.
Oui, alors je suis pas spécialiste de la période moderne contemporaine, donc les dates faut s'accrocher, mais il me semble que c'est en 2001 que le prince du Népal, donc il y avait encore le roi en place, le prince du Népal aurait en fait en gros trucidé, massacré sa famille. Ça s'appelle, c'est un événement qu'on appelle le massacre du palais royal. Il me semble que c'est en 2001, ouais. Et donc il est venu avec un M16 ou une arme automatique et il a en gros dézingué toute la famille royale, une partie de la famille royale, parce qu'il en reste bien sûr, avant de se donner la mort. Enfin, il a essayé, il est mort plus tard à l'hôpital. Mais donc il y a suspicion que la CIA est impliquée, enfin bref, qu'il y a des interférences étrangères. Voilà, des théories du complot comme il se doit. Je ne sais pas qui a le dernier mot, je ne sais pas si on l'aura jamais. Pour être honnête, je ne m'y intéresse pas trop à titre personnel, mais c'est important d'être au courant de cette phase. Et donc, on a eu cette guerre civile qui a perduré jusqu'en 2006 officiellement. Et après ça, on a eu une période où on a instauré un système démocratique. Sauf que ce système démocratique, jusqu'à 2015, n'avait pas de constitution. Donc c'est seulement en 2015, après les tremblements de terre d'avril et de mai 2015, c'est en août ou septembre, je crois, que finalement une constitution a été votée. Donc pendant plusieurs années, le pays n'avait pas de système vraiment pour le régir. Ça a mis du temps, donc il est en place, il vaut ce qu'il vaut, je dirais pas ce que j'en pense, c'est pas GG, mais en tout cas c'est un système démocratique et fédéral. Donc le fédéralisme là dans ce contexte a énormément d'avantages, vu qu'il représente plus ou moins bien, il me semble, les diversités culturelles et linguistiques du pays. En tout cas, pour les gens que j'ai, avec lesquels j'ai parlé dans la région où je travaille, dans l'Ouest, il semble qu'ils en sont assez fiers de l'État fédéral auquel ils appartiennent. Ça leur correspond. Donc voilà, on a maintenant une démocratie. Ça n'est plus un royaume de droit divin, parce que c'était le dernier royaume hindou d'Asie. Le roi était considéré comme un avatar, une émanation de Vishnu. Et donc voilà, on est passé de ça à une démocratie qui vaut ce qu'elle vaut. Mais voilà, c'est un changement quand même assez énorme pour la population. Ouais.
Mais avec certaines traditions qui ont été conservées, je pense à la Brahma Kumari, qui est aussi une incarnation de je ne sais plus quelle déesse, qui une fois par jour ou une fois par mois ouvre la fenêtre quelque part d'un palais, je crois que c'est à Bhaktapur, non ?
Alors il y a des Kumari, il y en a plusieurs, il y en a dans plein de... Alors il y a la Kumari royale de Katmandou, il y a celle de Patan, il me semble qu'il y en a une à Bhaktapur. Il y en a une à Kokana, qui est un village fondé par des Newars en dehors de la vallée de Katmandou. Donc on a des Kumari un peu partout, et là où il y a des Newars qui sont implantés depuis très longtemps, il y a plusieurs Kumari. Donc oui, la Kumari bénissait le royaume, le roi en personne, et elle était un peu le numéro 2 divin deuxième représentation divine du royaume, en gros, qui est considérée encore aujourd'hui comme une déesse vivante. Alors la Kumari, c'est un peu un drame, c'est en train de changer. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ces sujets contemporains, mais c'est en train de changer parce que la Kumari, en fait, c'est une petite fille qui est sélectionnée dans certaines communautés. On lui trouve des attributs qui font d'elle, qui l'identifient comme la Kumari, la taille des yeux, des choses comme ça, la forme des yeux plutôt. Et donc cette petite fille va vivre enfermée, en fait, il faut le dire, dans un temple ou lieu de vie où elle et sa famille peuvent résider. Et en théorie, vous n'êtes pas censé approcher la Kumari de Katmandou. Celle de Patan, vous pouvez recevoir sa bénédiction, mais vous ne pouvez pas la toucher. C'est elle qui vous met la tika sur le front. Mais une fois que la Kumari a ses règles, ses premières règles, elle n'est plus considérée comme déesse vivante. Et le drame, c'est que ce sont des filles qui ont, pendant longtemps, les anciennes générations, été considérées à la limite d'être des sorcières impures, parce qu'elles passent d'un statut divin à un statut humain ou moins qu'humain. C'était assez étrange, mais je crois que maintenant c'est en train de changer, et voilà, il y a des Kumari qui se marient, c'est plus facile maintenant pour elles de se marier, les mentalités changent, la nouvelle génération comprend que voilà, elle a juste eu ses règles et c'est devenu une femme à part entière, et voilà.
Tu parles donc ce nouvel État fédéral en 2006. Donc il y a plusieurs ethnies. On en a parlé de quelques-unes, hein, les Niwars, les Tibétains. Est-ce que tu peux un peu me dresser le nombre d'ethnies, le nombre de langues qui est parlé encore aujourd'hui au Népal?
Alors il me semble que d'après les inventaires, on a plus d'une centaine de langues qui sont parlées au Népal. Oui, c'est assez énorme pour un pays qui fait plus de 22 millions d'habitants. Donc on a beaucoup de langues. La langue principale, donc, c'est le népali, qui est hérité de cette population qui a immigré de l'ouest du Népal en partie, qui est aussi, on a des influences dans la langue du bengali, on a aussi des mots de perse dedans, donc il y a plusieurs influences dans cette langue, mais donc c'est une langue qui est plutôt qui est plus proche de l'hindi qu'autre chose, qu'on écrit avec le même alphabet qu'on a en hindi, donc voilà, et qui dérive lui-même de la Devanagari qu'on utilise depuis les périodes, depuis le XVIIe siècle environ, pour écrire le sanskrit. Donc on a énormément de langues, on a donc le Newar, et même dans le Newar, qui est donc parlé dans la vallée de Katmandou, les gens de Bhaktapur, qui est dans l'est de la vallée, parlent un Newar un peu différent du reste, apparemment brutal. On a ensuite le Tamang, on a le Sunuwar, Chepang, Sherpa, bien sûr. Hein, la plupart des gens connaissent les Sherpas, associent les Sherpas injustement au fait d'être porteur. On dit un Sherpa, mais un Sherpa, c'est une ethnie, comme dire un Alsacien. Donc on a les Sherpas, on a Gurung, Tamang, on a les Magar, une population qui dominait sans doute l'ouest et le centre du Népal, c'est un terme sans doute très général. On a toutes les populations du Terai, on a les Tarou qui sont les plus connus, qui ont d'ailleurs une magnifique tradition de tatouage qui est en train de disparaître, mais pour lequel j'ai un projet avec plusieurs Népalais d'essayer de documenter ces tatouages avant que ça disparaisse, pas seulement dans le Terai mais aussi dans les montagnes. Donc oui, on a faire une liste prendra la journée, enfin peut-être pas, mais en tout cas on a près d'une centaine de langues, mais il faut comprendre qu'il y a certaines langues qui sont plus parlées que par 5 personnes. Ou en tout cas, 5 personnes ont pu être trouvées pour certaines langues. Il faut regarder les Nepal Census, qui sont des documents assez bien faits par le gouvernement népalais, où là où vous avez la liste des langues, ça se trouve en ligne.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Est-ce que tu peux revenir sur la religion, la spiritualité, la philosophie, hein? Donc, j'ai en tête l'hindouisme et le bouddhisme qui ont l'air de plutôt bien cohabiter.
Alors ils cohabitent plutôt bien, on a, à l'heure actuelle en tout cas, on a souvent dit que, ça a souvent été l'objet de débats sur le fait qu'on avait un syncrétisme ou pas, donc les deux religions qui s'unissent vraiment pour faire quelque chose de nouveau, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors en tout cas dans la vallée de Katmandou, ce qu'on a c'est qu'on a, vous pouvez très bien avoir des temples hindous juste à côté d'un temple ou d'une sculpture d'une divinité bouddhiste, ou vous pouvez même avoir une divinité bouddhiste dans un temple hindou et vice versa, et qui va être nommé différemment en fonction de qui la vénère. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé merveilleux pour revenir à ce que j'ai apprécié au Népal dès mes premiers voyages, c'est cette sorte d'adaptation et de tolérance des gens par rapport au fait que si toi tu veux vénérer cette entité sous ce nom, fais-le, nous on l'appelle comme ça, voilà. Et ça cohabite très bien, il n'y a pas oui bien sûr, entre des ados ou des jeunes adultes attardés, vous pouvez toujours avoir des débats stériles sur c'est ceci, c'est cela, mais il y a d'une manière générale, il y a quand même une sorte de grande acceptation, j'ai l'impression de faire des anglicismes à tort larigot, mais en tout cas c'est beaucoup plus accepté d'avoir par exemple une sculpture de Bouddha qui va être considérée comme Shiva par d'autres, et ça va, les bouddhistes diront ah oui bon c'est que c'est ça, mais en fait c'est pas ça, enfin bon bref, il y a une grande tolérance et parfois personne n'a raison. Si vous regardez l'iconographie de la divinité qui est représentée, parfois personne n'a raison et c'est tout autre chose. Mais donc pour en revenir à la vallée de Katmandou, oui, on a les deux cultes, les deux religions qui sont pratiquées côte à côte. Et comme j'ai dit, le roi était hindou. Il soutenait hindou parce qu'il est aussi une incarnation sur Terre de Vishnu. Mais il soutenait aussi les institutions bouddhiques. Même s'il participait à des rituels bouddhiques également, mais il était principalement un personnage hindou. Et on a donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez à l'heure actuelle avoir une famille qui va pour certains rituels demander à son prêtre familial hindou de les faire. Et pour certaines autres choses, ils peuvent très bien aller voir chez les bouddhistes comment ça se passe, ou chez un chaman. Et en fait, on a une complémentarité de toutes ces pratiques religieuses. Alors le chamanisme, il est un peu toutes ces choses. Parfois, ça dépend souvent du chaman en particulier, qui peut être plus orienté, qui peut faire appel à des concepts hindous ou des entités hindous ou bouddhistes. On a un peu un mélange, mais ça porte un peu plus sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, il faut le dire. Mais en fait, il y a une complémentarité dans le fait que l'hindouisme va vous donner un cadre pour tout ce qui est les activités qui rythment la vie. Donc la première fois où vous allez manger du riz, on va faire une cérémonie spéciale, le mariage, la mort et des choses comme ça, vous allez avoir des rythmes qui viennent de l'hindouisme. Et le bouddhisme, pour certaines personnes, va fournir le cadre plus philosophique, on peut dire, renaissance et de choses comme ça qu'on a aussi dans l'hindouisme. Mais voilà, il va y avoir des niveaux de complémentarité, Et souvent, quand on a un problème dans la famille, on va aller voir un prêtre hindou, donc un brahmane, on va lui exposer notre problème, et puis il va essayer de faire des rituels. Si ça ne marche pas, on peut aller voir un bouddhiste, voir ce qu'il va en faire, s'il peut faire quelque chose. Et en dernier recours, il y en a encore un ultime que je vais pas mentionner tout à l'heure, mais en dernier recours, on peut faire appel au chaman qui, lui, va vraiment rentrer dans l'action, rentrer en transe, aller voir les chevaucher des divinités pour aller chercher une âme qui est malade ou des choses comme ça. Donc on peut avoir un recours à tous ces spécialistes de l'invisible, du religieux, en fonction des problèmes. Il y a des familles qui sont bien sûr plus orthodoxes et qui vont voir que des prêtres hindous ou que des bouddhistes, ou qui sont attachés vraiment à un monastère bouddhiste, qui font partie de la communauté de ce monastère, c'est le cas à Katmandou. Et voilà, on a tout type de profil de population qui font, il y en a qui sont donc orthodoxes et il y en a qui font un peu leur sauce. Et l'ultime recours, si vous avez un problème, par exemple une maladie incurable que aucun spécialiste religieux en tout cas n'a pu résoudre, pour ceux qui ne veulent pas aller à l'hôpital, on peut encore aller voir un chrétien. Un prêtre chrétien, alors c'est surtout des évangélistes d'origine, financés par la Corée du Sud ou les États-Unis. C'est pas forcément des choses qui m'enchantent personnellement, mais ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est que par exemple, il y a des villages dans l'ouest du Népal où j'ai résidé, où on a une église ou deux, toutes neuves, assez moches, mais on a une communauté hindoue à la base, quelques familles nouvellement converties. Et dans les familles mêmes, il peut y avoir, très bien avoir le mari est converti et la femme est encore hindoue. Et ils vivent très bien ensemble. En tout cas, je n'ai pas fait un doctorat dessus, mais quand vous posez la question, les gens semblent très bien vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème que moi, en tant que voyageur qui passe comme ça, ne vois pas. Mais ouais, on a ce christianisme qui gagne de plus en plus de terrain, surtout qu'il me semble que le prosélytisme est maintenant autorisé au Népal.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
David, waouh, merci hein, déjà pour tout cet éclaircissage historique, religieux, spirituel. Donc tu as fait un doctorat, je vais peut-être t'interroger sur le thème de ton doctorat, sur quoi tu as travaillé.
Oui, alors j'ai fait une thèse que j'ai menée à l'université Paris-Sorbonne, Paris 4. Donc la thèse porte sur l'archéologie de l'ouest du Népal, en plus particulièrement le bassin de la Karnali, qui est une rivière qui prend sa source au Tibet et qui traverse les montagnes népalaises avant d'aller rejoindre le Gange. Et donc voilà, dans le cadre de ma thèse, j'ai fait plusieurs séjours de terrain, aller chercher, explorer, voir les monuments que j'ai vus dans les quelques publications existantes, voir de mes propres yeux, les décrire, et puis au passage faire de nouvelles découvertes, parce qu'il y en a. C'est pas parce que des gens, c'est là qu'il y a aussi un bel enseignement, c'est pas parce que certains sont des gens sont déjà passés avant toi que toi tu n'as rien à découvrir. Et en fait, j'ai pu découvrir des choses assez. Pour moi stupéfiante, sur des endroits où les gens, d'autres chercheurs, des anthropologues ou des archéologues étaient déjà passés, mais n'avaient rien noté de particulièrement intéressant. Et en fait, avec un regard neuf, on peut faire dire des choses, bien sûr, mais il y a aussi des éléments qui sont là et qui sont parlants. J'ai un exemple, c'est une fontaine où, en fait, en regardant à l'intérieur, toute petite cavité. On s'est rendu compte avec les gens du village qui utilisent cette fontaine tous les jours qu'il y avait en fait un gros bloc sculpté à l'intérieur de la fontaine. Donc c'est impossible de le sortir aujourd'hui. Mais sur ce bloc sculpté, il y a une inscription en langue tibétaine qui doit dater du 10e, 12e siècle et qui est à l'heure actuelle l'inscription en langue tibétaine la plus ancienne connue du Népal. Donc voilà, c'est des choses que ou même les locaux n'avaient pas vues en fait, mais c'est juste parce que vous êtes un enquiquineur d'archéologue et vous allez nettoyer d'un bout de caillou qui ressemble à rien, et c'était complètement fortuit et inattendu comme découverte qu'on a fait avec la communauté. Donc voilà, ça, c'était une belle découverte, et maintenant ils le savent, et ils savent maintenant que c'est un artefact très ancien. Donc là, j'y suis allé en mai, avril-mai, je suis retourné au village pour leur dire un peu de quoi ça parle, cette inscription, parce qu'on a travaillé à la traduction avec des spécialistes à Paris. Et donc voilà, on en apprend plus. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui est génial, c'est une fois que tu as fait ta recherche de terrain, fait ta thèse de doctorat, c'est de revenir sur place et puis d'échanger avec les gens. Alors parfois, ils sont contents et ils sont « Ah oui, bah, super !» Parfois, les gens sont un peu plus suspicieux, mais d'une règle, 90% du temps, les gens sont vraiment enchantés en fait que quelqu'un vienne d'aussi loin pour s'intéresser à leur culture, et puis surtout que je suis en train d'adapter ma thèse en livre, donc en anglais, et donc il y a plein de Népalais qui attendent que ça sorte. Alors, et moi je suis très impatient aussi d'avoir leur retour et leur critique, parce que j'ai jamais qu'un point de vue étranger.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
David, donc là on est toujours dans mon salon, tu me montres ton écran d'un projet sur lequel tu as travaillé donc pendant les tremblements de terre de 2015, c'est ça, hein, c'était en 2015.
Ouais.
Tu étais présent, ou en tout cas tu étais pas bien loin. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, presque 10 ans plus tard? Est-ce que ce qui a été détruit est très reconstruit? Quel est l'après Katmandou, vallée de Katmandou, depuis cet événement marquant?
L'après Katmandou, je pense que dans la plupart des lieux importants, patrimoniaux importants, ça s'est plutôt bien passé. De ce que j'ai vu, il y a des endroits ou des lieux où c'est encore, les choses ont été assez mal faites suite à des pressions et choses diverses que je ne vais pas évoquer ici. Mais là, grosso modo, la vallée s'est reconstruite. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément fait reconstruit mieux dans plein d'endroits. Il y a plein d'endroits où j'ai vu des gens dans des villages reconstruire avec des murs où c'est juste une ligne de briques. Donc on s'imagine très bien que le prochain tremblement de terre, ça va s'effondrer joyeusement. Et tout ça, sachant que les tremblements de terre, donc on en a eu deux gros en 2015, en avril et en mai, on sait, les géologues, les sismologues nous disent qu'on n'a pas la pression qui était accumulée, toute cette pression sismique n'a pas été relâchée. Donc on sait qu'il y a le gros tremblement de terre qu'on attendait depuis 20 ans, on sait qu'il n'est pas encore venu en fait. Donc ça va encore péter au centre du Népal, très probablement aussi dans l'ouest. Le dernier gros tremblement de terre qu'on a eu dans l'ouest du Népal était en 1505. Donc voilà, on a encore une pression sismique et donc il y a encore un danger. Donc les gens qui voyagent au Népal, toujours voyager avec une bouteille d'eau sur soi, jamais s'en défaire.
Je vais terminer cette émission parce que tu as appuyé à savoir, tu m'as dit déjà beaucoup de choses, mais je vais terminer sur ce par quoi on a commencé. David le voyageur, toi oui. C'est vraiment ton métier passion qui t'a amené à voyager, à t'immerger de manière durable au Népal, tu y retournes régulièrement. Est-ce que des fois tu te dis, la planète est vaste, j'ai envie d'aller gratter, creuser ailleurs, ou est-ce que tu continues vraiment à travailler sur cette partie-là du monde?
Alors oui, justement, les gens me disent « Ah, tu voyages beaucoup », mais au final, c'est comme si j'allais au travail je prends pas le métro forcément pour y aller, mais du coup, je suis très focalisé sur le Népal, sur l'Himalaya. Donc il y en a aussi, il y a aussi, j'ai aussi des zones d'intérêt en Inde et au Bhoutan et au Tibet, bien sûr. Ça reste ma région d'intérêt principal. Honnêtement, si on me dit, ah, viens, on va en Amérique du Sud demain, je suis tellement attaché, je me dis, si je voyage, tant qu'à voyager, c'est aller là-bas parce que chaque vallée est différente, chaque ethnie, chaque groupe linguistique, culturel est différent, que j'ai l'impression de voyager. On peut voyager dans le même pays et les Népalais eux-mêmes s'en rendent de plus en plus compte que s'ils voyagent dans leur pays, ils ont une multitude de paysages, un peu comme la France où on a vraiment des paysages vraiment riches et variés, des cultures qu'on voit plus au final, différentes en fonction de nos régions. Mais voilà, moi je me satisfais en fait de l'Himalaya et du Népal.
Alors peut-être dernière question, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un touriste ou un voyageur qui va aller au Népal, peut-être y mettre une dimension responsable dans le tourisme qui aujourd'hui peut être très impactant par les voyageurs sur les populations rencontrées?
Alors moi, la chose que je dis en général, c'est aller d'abord en Inde et après au Népal, parce que toutes les choses que vous avez vues en Inde, que vous avez appréciées en Inde, vous les retrouverez au Népal. Celles que vous n'avez pas appréciées en Inde, vous ne les retrouverez pas au Népal. du coup, on apprécie mieux le Népal. Mais c'est mon point de vue personnel. Ce que je recommande pour être un voyageur responsable au Népal, c'est d'essayer déjà, si vous ne parlez pas l'anglais, de vous mettre à l'anglais pour avoir quelques bases. Parce que j'ai déjà vu des Français hurler en français sur des Népalais qui ne comprenaient rien à ce qui se passait. Et aussi éviter de faire les camps de base, les camps de base de l'Annapurna, le camp de base de l'Everest, qui sont des véritables poubelles. Quoique n'importe quelle ONG vous dise qu'ils vont nettoyer le camp de base, ils enlèvent 3 cacahuètes et puis voilà, 2 bouteilles d'oxygène. Voilà, c'est un tourisme de masse qui est très impactant, qui est très polluant. Vous enrichissez surtout les agences de voyage et pas forcément les porteurs. Voilà, donc ça, ce serait mon conseil. Éviter de boire des bières en montagne parce que les bouteilles, elles restent là-bas. Personne va les récupérer. C'est pas près d'arriver. Donc oui, éviter de juste consommer de manière responsable comme vous le feriez en France, mais de manière encore plus critique, autocritique, parce que on n'a pas de ramassage de poubelles. Voilà, donc ramenez vos piles. Si vous avez des piles, vous les ramenez, vous les jetez chez vous, parce que sinon elles vont finir dans une rivière et ça va finir dans le Gange et ça va finir. Voilà.
Et comment ça se fait, enfin, j'observe chez ceux qui vont voyager, ceux qui partent voyager au Népal, souvent un coup de cœur immédiat. Hein, beaucoup de gens reviennent du Népal et ont envie de soutenir, ont envie d'aider ce pays. J'ai l'impression qu'il y a un capital sympathie particulier pour cette région du monde.
Comment est-ce qu'on peut aider le Népal ?
Ouais, pourquoi est-ce que les gens s'amourachent de cette région du monde ? Enfin, en tout cas, c'est ce que j'observe hein, chez pas mal de voyageurs. Et puis, ouais, peut-être aussi comment aider, c'est peut-être la dernière question.
Je pense, on retourne sur des clichés, mais c'est des gens qui, quand ils rencontrent les Népalais sont en général très, très avenants quand ils rencontrent un étranger, comment dire, ils sont en admiration devant des gens qui ont traversé la planète pour venir les voir eux. Donc ils auront toujours une attitude tellement bienveillante vis-à-vis de vous. Si vous voyagez avec des enfants, ils vont être fous de vos enfants parce qu'ils vont être différents. Si vous êtes blanc, parfois j'ai des enfants qui me caressent les jambes ou les bras parce qu'ils voient mes poils noirs sur de la peau blanche. Ou si vous êtes noir, ils vont se dire c'est du chocolat. Enfin, il y a un intérêt vraiment pour ce qui vient de l'étranger. Et je pense que c'est ça qui fait que les étrangers qui s'y retrouvent tombent vraiment amoureux d'un pays où vous avez un cadre naturel. Je pars dans la montagne, il y a aussi de la pollution, hein, faut pas se faire des films, ou un cadre naturel magnifique et où vous avez une population qui est juste merveilleuse. En plus, on va dire qu'en Europe, on est quand même plus tourné sur les religions. On a une bienveillance vis-à-vis des religions hindoues et bouddhiques, plus qu'on a de la bienveillance envers l'islam, malheureusement. Et du coup, ben, on a aussi, déjà, on est préparé, je pense, à apprécier cette culture. On a quelques codes parfois pour comprendre ce qui se passe. Donc je pense que ça participe à tout ça, alors qu'on a la culture gastronomique népalaise, elle n'est pas la plus évoluée du monde. C'est mille fois mieux en Thaïlande, par exemple, ou en Inde, mais tous les soirs, votre riz et lentilles vous comblera et vous aurez envie de serrer dans les bras les gens qui vous l'ont servi. Et comment aider le Népal ? Je ne sais pas si c'était une réponse, hein, mais comment aider le Népal ? Il y a plusieurs associations. J'ai tendance à dire qu'il faut regarder ce que fait l'association véritablement. Est-ce que vous donnez de l'argent pour payer les membres de l'association pour aller là-bas prendre des photos ? Je sais qu'il y en a qui font ça. Je pense qu'une bonne manière de l'aider, c'est se renseigner sur les associations, ne pas donner aveuglément. En Alsace, on a Keta Keti. Donc voilà, se renseigner sur ce que font les associations, éventuellement donner des associations, des ONG comme Médecins du Monde, qui a une antenne là-bas.
Oui, regardez souvent les frais de fonctionnement. Tu disais, dans une ONG, c'est important de voir où vont le don qui est donné, donc sur 100 euros, quelle est la partie, quel est le pourcentage utilisé pour les frais de fonctionnement de l'association, et quel est le montant qui va réellement sur les projets prônés ou soutenus par l'association ou l'ONG.
Alors, je sais que parfois, c'est pas forcément très clair, mais je rajouterais juste que j'éviterais, si vous voulez vraiment aider le Népal, c'est de donner à des institutions religieuses bouddhistes. Je sais que beaucoup de gens sont dévots, ils veulent absolument aider. Ces institutions vont faire comme faisait Mère Teresa, investir dans leurs institutions et faire un bon monastère qui n'aide pas franchement la population. J'inciterai les gens à éviter de donner à des institutions religieuses.
David, merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter la deuxième partie de l'émission avec David Andolfato comme invité. Retrouvez l'intégralité de ce podcast Regarde ailleurs sur Deezer, Spotify et tous les sites de streaming. Merci à vous.